ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Ce soir, avec Sylvie Tercé. Bonsoir, vous êtes
Bonsoir.
Kinésithérapeute, vous êtes bouddhiste et vous êtes rattachée au groupe Chekor Ling de Toulouse. Vous allez nous en parler après avoir dit votre parcours, comme c'est l'habitude. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Nous connaissons assez peu le bouddhisme en France, mais nous allons parler de ce moment de sagesse, de paix qui vous habite et de vos convictions depuis votre petite enfance et j'allais dire votre conversion.
Merci. Merci d'abord pour cette invitation. Effectivement, je ne suis pas née bouddhiste, je suis née dans une famille qui était catholique. Catholique, pas forcément énormément pratiquant, mais avec une foi quand même assez forte.
C'était Albi.
C'était Albi, voilà. Et mes parents sont restés catholiques, et voilà, il n'y a pas de souci. Et moi, je n'ai aucun souci à aller dans une église, prier, voilà.
Mais quelque chose vous semblait peut-être...
Alors, c'est vrai qu'il y avait des choses, mais ça, c'est dans un second temps qu'on s'en rend compte, qui, pour moi, me posait problème. L'association de Jésus et Dieu, et de Dieu à un père, oui, pour une proximité peut-être, mais voilà, j'étais gênée par certaines choses. Mais bon, je n'étais pas spécialement en recherche, parce que j'ai eu une éducation qui était très, très bien faite, avec des gens qui étaient très bien. Et en fait, c'est plutôt à la suite d'un voyage au Tibet que j'ai fait en 87. Je suis revenue... quand j'y suis allée, je ne connaissais rien du Tibet. Et à mon retour, j'ai commencé à lire Alexandra Davinel, cette grande exploratrice. Et... c'est vrai que quand elle abordait l'aspect philosophique bouddhiste, j'étais très intéressée. Et du coup, à mon retour, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et du coup, j'ai acheté un petit livre, tout simple, le bouddhisme tibétain, tantrique, je ne sais plus, peu importe. Et...
puis d'aller voir les moines de Lavaur, rencontrer
d'autres
personnes. Ah non,
pas à ce moment-là. Non, je ne savais même pas qu'ils existaient, qu'on était si bien... fourni, j'allais dire, dans la région toulousaine, non. Et là, je me suis dit, ça a été une révélation pour moi de me dire, finalement, tu étais bouddhiste depuis que tu étais né, mais tu ne le savais pas. Et comme je vous ai expliqué, c'est vrai que c'était un peu comme un puzzle qui se remet en place et un retour à la maison. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'était comme ça. Et c'est vrai que, du coup, à l'époque, je travaillais à la clinique Saint-Michel comme kiné et je suis passée devant l'incunable où il y avait des initiations à la méditation. Et j'y suis allée, je m'y suis présentée. Effectivement, c'était des moines qui venaient de l'avoir. Et je suis tombée sur un enseignement, non pas sur une méditation du tout ce soir-là, mais sur la vacuité. Sujet très laborieux, mais finalement qui ne m'a pas dégoûtée, bien au contraire.
La vacuité.
Oui.
Dites-nous ça.
Un rien plein de choses. Voilà. En fait, non, ça prendrait trop de temps pour expliquer ce qu'est la vacuité. En gros, c'est le fait qu'on ne voit... on voit les choses, mais on croit voir les choses d'une façon, mais elles ne sont pas telles qu'elles nous apparaissent. Voilà.
On ne sait pas qu'on ne sait pas.
Voilà, exactement.
Dans d'autres...
et tout ça vient de l'ignorance, mais bon...
Dans d'autres religions, on disait on cherche Dieu, mais on ne peut rien dire sur lui. C'est une théologie apophatique, on ne va pas utiliser de grands mots. Mais alors, non. Le bouddhisme, ce n'est pas une religion, c'est une philosophie, c'est une sagesse.
On a un peu tout.
Ben voilà,
un
on
peu
a
tout,
mauvaise idée.
Suivant les gens, peu importe, on peut le prendre comme une philosophie, comme une religion, parce que ça demande quand même une foi en certaines choses. Si on n'a pas eu au fond de soi certains ressentis, notamment par rapport au karma et aux réincarnations. Mais c'est vrai que dans la petite enfance, parfois, on peut avoir eu des souvenirs de sa précédente vie. Et si on ne l'a pas vécu soi-même, on peut très bien avoir du mal.
Vous allez fâcher des catholiques qui croient en la résurrection, mais qui pensent que nous ne sommes pas d'un autre monde. Mais c'est un autre débat.
Voilà, ils croient bien une sorte de vie après la mort, puisqu'il y a une résurrection, il y a
Oui, mais vous disiez
paradis,
avant la mort.
Voilà.
Avant la naissance,
tout
je veux
à
dire.
Fait. Oui.
Hein, mais même si certaines moniales et certains moines disaient « Je t'ai choisi depuis, bien avant le début du monde. » Donc il y a une vision d'un être surnaturel. Nous sommes dans la métaphysique. Mais alors, la monitrice de ski, elle a d'autres moyens d'équilibre dans la vie parce que vous êtes mère à ce moment-là de...
Oui,
puis de vos enfants.
Un moyen de rencontrer mon mari par le ski, puisque j'étais monitrice de ski. Lui était moniteur de fac, moniteur de danse à la faculté ici, Paul Sabatier. Et ce qui nous a amené à partir vivre 2 ans au Canada, dans un premier temps. Puis après, nous sommes rentrés, nous sommes mariés. Donc nous avons fait Nicolas, Vincent. Et en fait, c'est...
Et Clara,
et Clara dans un second temps, parce qu'entre-temps, on est reparti au Canada pendant 2 ans à Edmonton, et Clara n'est venue qu'après Edmonton. Et en fait, je suis devenue bouddhiste vraiment pour dire que j'ai pris refuge entre la naissance de Vincent et de Clara. Mais c'est quand même moi qui ai fait la préparation avec le prêtre pour le baptême de Clara. Parce que les deux aînés ayant été baptisés, je tenais à ce que la troisième ne se sente pas exclue. Et puis, je trouvais leurs origines judéo-chrétiennes important qu'elles puissent éventuellement choisir après. Mais pour les grands-parents, je ne voulais pas du tout influencer cela. Et du coup, j'ai ma belle-mère qui était très croyante et très catholique. Je lui ai dit, vous vous occupez de leur faire l'éducation catholique, parce que moi, je ne m'en sentais pas vraiment capable. Et s'ils veulent éventuellement après connaître le bouddhisme, ils me poseraient une question. Mais voilà.
La table rase n'est pas une solution.
Tout à fait.
Et l'inculture n'est pas l'indifférence.
Non.
Alors, on voit que vous avez envie de voir ailleurs, dépasser les frontières du Tarn ou de la Haute-Garonne et de partir au Canada, au Tibet. Cette découverte du monde, c'est aussi une curiosité, mais plus que ça, un appel ailleurs.
Alors, au départ, les déplacements étaient dus au fait que mon mari, en tant que chercheur, a fait son post-doc et après un échange scientifique. Mais du coup, c'est un enrichissement. Et par ce premier voyage au Tibet, qui était vraiment mon premier voyage hors du pays, hormis l'Espagne à côté où j'allais skier, c'est un véritable enrichissement. C'est vrai qu'ici, même le plus pauvre est un roi par rapport aux Népalais, quoi. Et ils sont toujours dans le sourire, dans la... C'est vrai qu'ici, on se plaint beaucoup et parfois, on prend des leçons quand on est dans des pays comme ça.
Il y a le sourire, mais il y a aussi tous les sens
Exactement.
Qui sont interpellés.
L'accueil.
Et vous nous avez apporté cette musique de Himalaya, de Bruno Coulet.
Voilà.
Pour signaler aussi parfois cette confrontation entre générations et puis ce drame de la vie, malgré tout. Et pourtant, cette bonne humeur et ce chant, cet hymne à la nature.
Et qui comprend le mantra de Tara.
Alors ça, c'est l'image que vous nous avez mise sur le site et vous nous expliquerez, bien sûr, les mantras et la figure de Tara.
Oh,
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Et ce soir, avec Sylvie Tercé, vous êtes kinésithérapeute, vous êtes bouddhiste, en lien avec, ou plutôt une des personnes qui réfléchissait dans Chekor Ling de Toulouse. Revenons peut-être en deux mots pourquoi vous avez choisi cette musique du film Himalaya par Bruno Coulet. Et puis vous nous orienterez vers les figures du bouddhisme.
J'ai choisi Himalaya parce que déjà le film, l'histoire du film est bien, le film est beau lui-même puisque c'est la confrontation des générations. Des anciens avec leurs croyances et des jeunes avec un côté beaucoup plus pratique. Et il n'y en a pas un qui gagne par rapport à l'autre, même si le plus âgé va mourir. En fait, il faut le voir parce que c'est vraiment intéressant. Et en plus, la musique a été adaptée et on a pu entendre le mantra derrière de Tara, « Om Tutare Tutare Ture Soa ». Qui est un mantra, donc un mantra, une récitation qui est comme une prière.
Comme le chapelet avec des
perles.
Un peu
comme un chapelet, voilà, qu'on peut dire. On entend les Tibétains très souvent dire le mantra Om Mani Padme Hum, mais le réciter tout en circulant autour des stupas, donc des petits monticules qui ont une représentation pour eux.
Et est-ce que c'est une prière qui s'adresse à un autre? Ou est-ce que c'est une méditation sur soi-même?
Non, alors c'est plus, on invoque un Bouddha qui a des qualités. Un Bouddha ou une déité comme Tara, qui est comme un Bouddha féminin, qui a des qualités bien spécifiques, et un peu comme une mère qui va nous protéger et nous donner une certaine force. Et bon, c'est un peu difficile d'expliquer ça comme ça très rapidement, parce qu'en fait, quand on reçoit un enseignement de Tara, par exemple, ou du Bouddha Shenrezi, il peut y avoir des livres qui sont écrits, qui prennent plusieurs pages. Donc, pour les comprendre vraiment, c'est un peu plus compliqué, quoi.
D'autant qu'il y a plusieurs courants dans le bouddhisme.
Voilà. Mais on peut le prendre déjà, ne serait-ce que comme quand les gens viennent à Chekor Ling, donc écouter des méditations et qu'ils tombent sur une pratique où il y a la récitation du mantra, sans qu'on s'en rende compte, le mantra, il rentre dans une certaine énergie qui est très bénéfique. Voilà, je ne saurais pas dire comment ça marche, mais...
Vous avez parlé du groupe Chekor Ling à Toulouse. Il faut dire que vous vous réunissez normalement.
Quand il n'y a pas le Covid.
Tous les mercredis soirs de 20h au chemin Puy-Gibé.
Chemin Puy-Gibé, oui, du côté de Bordeaux-Rouge.
Alors tout à l'heure, nous avons évoqué un tout petit peu brièvement le panthéon ou bien la cosmogonie. Tout ça, c'est ce qui fait que le bouddhisme, c'est un peu une religion. Mais vous insistez beaucoup. D'abord, sur les modèles, je pense que c'est important de redire. Le 6e siècle avant notre ère, c'est donc cette sagesse, elle vient d'un prince au sud du Népal, d'une caste aristocratique, et qui va tout abandonner. Pourquoi ? Il est choqué.
Ouais. Il était protégé de tout, dans un monde un peu idéal, où on ne lui montrait même pas qu'une fleur pouvait faner puisqu'elle était retirée avant qu'elle ne puisse se flétrir.
Il rencontre un vieillard décrépit, voilà, un homme atteint
malade,
de la peste, et un cortège
et
qui
la
va
mort.
La mort.
Et il trouve ça profondément injuste. Et il va tout quitter, partir avec des ascètes. Il va être même complètement décharné et à tel point qu'il se rend compte qu'il est allé trop loin.
L'ascétisme rigoureux n'est pas la voie du salut.
Exactement, il revient à...
Un juste équilibre.
La voie du milieu, ni trop, ni pas assez, et toujours faire les choses avec sagesse.
Alors, une nuit, c'est l'éveil ?
Alors après, c'est vrai qu'il s'est mis sous l'arbre de la Bodhi, qui est dans le nord du Népal, à la frontière avec le Népal et l'Inde.
Au parc des gazelles, c'est très beau.
À côté, non, ça c'était, c'est là où il y a eu le premier enseignement. Mais l'arbre de la Bodhi, oui, il s'est assis dessous et il est parti en méditation jusqu'à atteindre l'éveil, dit-on. Je ne saurais pas en combien de temps, mais voilà. Et après, ses disciples lui ont demandé de leur enseigner la voie qui a mené à l'éveil. Au début, il a dit non, les gens ne sont pas prêts à entendre ça. Et puis finalement, il a commencé et il a appris les quatre nobles vérités que sont la souffrance, la cessation de la souffrance, l'origine et le chemin. Mais là, je vous dis autre chose. Ouais.
C'est important que nous entrions dans cette culture d'autres personnes qui cherchent la paix et qui cherchent, on va dire, la voie du salut. Et qui sont habillés par cette discipline pour vaincre tous ces sentiments de haine ou, par exemple, vaincre sa colère, c'est d'abord triompher de son plus grand ennemi, c'est l'ennemi intérieur.
Oui, tout à fait. Dans le bouddhisme, on ne nous demande pas de croire en quoi que ce soit. Par contre, on nous demande de travailler sur notre esprit et de faire le travail sur soi. Et c'est ce qu'on va faire, notamment par exemple la colère. C'est vrai qu'on va plutôt le travailler sur un coussin de méditation et méditer dessus. Parce que quand on est au moment d'une colère, c'est peut-être un peu trop tard.
Plutôt que le pushing ball.
Voilà, donc il vaut mieux l'avoir travaillé avant. Et petit à petit, on arrive à se rendre compte déjà qu'on est en colère, ce qui n'est pas toujours évident. Et d'arriver de mettre en place les...
Avant que la colère n'explose.
Voilà, et puis, les antidotes pour pouvoir l'éviter.
En Occident, on est peut-être très orienté, en tout cas certains, par le rationalisme, par l'abstraction, par les spéculations stériles. Et alors, le Dalai Lama, qui est un des successeurs du Bouddha, je vais dire sûrement des horreurs, dit que ce n'est pas de ces spéculations stériles que l'on va pouvoir trouver une libération pratique. Mais ceux qui voudraient s'initier au bouddhisme peuvent déjà regarder tous les dimanches sur notre chaîne Antenne 2,
le matin,
un quart d'heure à 8h30.
8h30, oui.
Après le rugby et avant l'islam.
Tout à fait.
Qui montre une grande... Alors, le relativisme absolu. Tout est possible, tout est permis, ou bien
il faut trouver
sa voie.
Non, il faut... Tout est fait avec éthique. On parle des six perfections notamment et l'éthique est très importante, donc on a un cadre, on ne peut pas faire n'importe quoi, qu'on soit moine ou laïque, on a certaines choses, on ne peut même pas tuer ne serait-ce qu'un moustique
et parfois c'est dur quand
donc non, il y a un cadre bien spécifique.
Oui, vous disiez qu'au départ c'est ce cancer du sein qui a été pour vous un signalement et cette découverte d'une paix intérieure ou peut-être du soin, de la guérison qui peut être apportée.
Disons que le fait d'avoir bien traversé cette épreuve, je l'ai dû vraiment en grande partie au fait que je sois quand même dans la profession, mais aussi par la récitation de mantras qui ont été très très bénéfiques. Et le fait de voir certainement la vie différemment aussi, ça aide.
Et puis vous nous avez apporté un livre du Lama Sopa Rinpoche que beaucoup connaissent comme Mathieu Ricard. Comment dédier votre vie aux autres? Parce que justement, c'est le problème, je ne peux pas me sauver moi-même tout seul, mais parfois il y a une inquiétude, est-ce que je suis impuissant, responsable ou coupable? Ce sont des notions qui, pour vous... sont plutôt occidentales, mais peut-être pas universelles, en tout cas, qui nous interrogent par le mystère de la vie et de la solidarité.
Oui, bien sûr, mais on est toujours responsable de ses actes. Et
responsable des autres.
Responsable des autres.
En partie seulement.
Oui. Et il faut changer son esprit et avoir, être toujours en relation avec les autres. Voilà.
C'est d'ailleurs ce que nous avons appris lorsque il y a eu, lors de la première saison, ma foi j'y crois, cette rencontre au niveau de Toulouse, la marche. Osons la rencontre, osons retrouver les autres personnes. Et nous avions eu le plaisir de dialoguer avec Chantal Desquilly, qui a fondé son monastère pour des femmes. Dites-nous en deux mots, parce que vous la connaissez bien.
Oui, c'est le monastère de femmes d'Orgeau-Pamau qui se trouve à Fiac, donc autour de Lavore, de la ville de Lavore, de même que l'Institut Vajrayogini, dont nous dépendons tous, que ce soit le monastère d'hommes, Nalanda, et le monastère de femmes, donc d'Orgeau-Pamau. Et même nous, Tchokorling, Toulouse, sur Toulouse, et il y a Tchokorling, Balma, sur Balma. À ce titre, d'ailleurs, nous faisons, les femmes font des méditations tous les mercredis soirs en ce moment, et nous, c'est le mardi soir, voilà, à cause du Covid. Après, on le fera en présentiel. Et après, quand, par rapport à Lama-Zopa Rinpoche, c'est vrai que c'est lui qui a introduit avec Lama Yeshe le bouddhisme un petit peu dans la région. Il était responsable de différents centres dans dans tout le monde entier, et qui a adapté et mis cette prière de Saint François d'Assise qui se trouve dans notre livre de prières bouddhiste. C'est pourquoi je l'ai choisi.
Oui, nous allons terminer cela dans 30 secondes, mais je voudrais quand même que nous évoquions aussi difficulté géopolitique du Tibet. Et tous ceux qui sont enfermés, tous ceux qui ont, on va dire, des lavages de cerveau pour quitter leur représentation, on va dire, bouddhiste, tibétaine, et d'autres personnes à l'intérieur, dans d'autres civilisations.
Oui.
Il y a une solidarité internationale.
Oui.
Et nous la...
Il y a encore des gens qui sortent, qui essaient de quitter le Tibet pour aller de l'autre côté de l'Himalaya, du côté de Dharamsala, où ils sont accueillis par le Dalai Lama, entre autres.
Et en France aussi, il y a des souffrances. En France aussi, il y a des personnes qui cherchent leur voie. Et merci d'avoir apporté cette prière de Saint François d'Assise qui est évoquée chaque fois à Toulouse. C'était avant les derniers mardis du mois à 18h pour ces enfants qui sont enfermés dans des centres de rétention administratifs parce que leurs parents n'avaient pas les papiers ou pour X ou Y raisons administratives, ces cercles de silence. Maintenant, les cercles de silence ont lieu à cause du coronavirus entre 12h30 et 13h30, je fais un petit peu de publicité, mais parce que nous avons une solidarité interreligieuse, intergénérationnelle, et nous nous en remettons à quelqu'un ou à une force qui est au-delà de nous. Alors, merci. On commence par dire, Seigneur, vous dites Bouddha. Bouddha, Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix.
Là où il y a la haine, faites que je sème l'amour. Là où il y a l'offense, que je sème le pardon.
Là où il y a la discorde, que je sème l'union. Là où il y a le doute, que je sème la foi.
Là où il y a l'erreur, que je sème la vérité. Là où il y a le désespoir, que je sème l'espérance. Là où il y a la tristesse, que je sème la joie. Là où il y a les ténèbres, que je sème la lumière.
Ô Maître divin, faites que je ne cherche pas tant à être consolé, et le Lama Zopa Rinpoche dit que je ne cherche pas tant le bonheur pour mon ego, mais plutôt à consoler, que je ne cherche pas à être compris, mais plutôt à comprendre,
à être aimé qu'à aimer.
Car c'est en donnant que l'on reçoit,
c'est en pardonnant que l'on est pardonné,
c'est en mourant, c'est-à-dire en ayant pratiqué, que l'on renaît à la vie éternelle.
De bonheur en bonheur jusqu'au plein éveil.
Cette recherche d'une félicité transcendante, de la bouddhéité omnisciente, vous viendrez encore nous en parler Sylvie, merci pour votre témoignage et merci aussi à Christophe pour l'enregistrement.
Merci à vous deux.